Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est l'épouse de l'empereur romain Auguste que nous fait connaître Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Livia, pour les Romains, Livy pour nous, fut une personnalité hors du commun. Lorsqu'on visite les restes magiques de son palais somptueux à Rome, on aimerait l'imaginer douce, charmante, et hélas, vous allez voir que l'histoire est un petit peu différente. J'ai demandé à Daniel Porte, familière d'Auguste, de nous accompagner sur ses chemins antiques.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Benoît, qui voudrait savoir pourquoi certaines mers portent des noms de couleurs.
Oui, la mer Noire, la mer Rouge et tout ça. Eh bien, nous essaierons de répondre. Pour le moment, je vous propose de nous rendre sur les rives de la mer Tyrrhénienne, autant dire aux environs de Rome.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Fatale comme mère à la République, plus fatale encore comme marâtre à la maison des Césars, ainsi Tacite, l'historien Tacite, l'auteur des Annales, décrivait-il la célèbre Livie. C'est un joli nom, un joli prénom Livie d'ailleurs, je le conseille. Moi, j'ai une amie à Poitiers qui s'appelle Livie, que je salue. La femme de l'empereur Auguste, qui, Auguste, vous savez, a été le fils adoptif de César, tout à fait sur le tard. Cette femme d'Auguste, venue de la haute noblesse romaine, est suspectée d'avoir été à l'origine d'un certain nombre de morts suspectes. C'est ce que je disais à Jean-Michel Apathy il y a un instant. Le but que poursuivait Livie, c'était de permettre à son fils préféré, Tibère, de prendre le pouvoir. Elle avait eu deux fils, Tibère et Drusus, d'un premier mariage. Et comme souvent, vous savez, elle avançait, elle poussait, elle favorisait ses fils, et notamment Tibère. Tous les historiens et écrivains antiques ne partagent pas, évidemment, ce jugement, mais rares sont ceux qui lui tressent des lauriers. Alors, pourquoi tant de haine pour celle que l'arrière-petit-fils de Livie, l'empereur Caligula, qualifiera un jour d'Ulysse en jupon, pour montrer à quel point elle pouvait être retorse et elle pouvait disposer d'expédients nombreux. En août 14, on va essayer de se situer au moment de la mort d'Auguste, hein, en août 14 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste est âgé, il a 76 ans. Ce n'est pas un homme de santé fragile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a prouvé au contraire sa robustesse, sa force, mais il faut reconnaître que là, il est quand même bien fatigué. Il a rédigé son testament, d'ailleurs, un an plus tôt, et il convoque ses amis. Voilà ce que nous dit Dion Cassius dans son histoire romaine. Il finit donc Auguste en ajoutant « Rome que j'ai reçue de briques, je vous la laisse de pierre. » Par cette parole, précise Dion Cassius, il désignait non la stabilité des édifices, mais la solidité de l'Empire. Et à l'exemple des bouffons demandant à l'assistance d'applaudir comme si l'on était arrivé à la fin d'une pièce de théâtre, il fit maintes railleries sur la vie humaine, et l'on sait ce qu'ajouta Auguste, hein, « Acta est fabula » que les Italiens ont traduit par « finita la commedia » ou « la commedia est finita », nous dirions-nous « la farce est jouée ». Après quelques jours d'agonie, le 19 août, Auguste rend donc son dernier souffle. Il se trouve pas très loin de Naples à ce moment-là, hein, à Nola. Et bien sûr que son épouse Livie est à ses côtés. Avant de mourir, d'ailleurs, il s'est tourné vers elle. Elle s'est approchée et lui a dit « Adieu Livie, souviens-toi de notre union à Dieu ». Toujours est-il qu'à 72 ans, Livie se retrouve veuve. Ils ont passé 51 ans ensemble, 51 ans de mariage. À l'époque où ils s'étaient rencontrés, Livie était mariée déjà et elle attendait son second enfant de son mari, qui s'appelait Tiberius Claudius Nero, de la riche lignée des Claudes. Auguste, lui, à l'époque, ne s'appelait pas encore Auguste, c'était toujours Octave, bien sûr. Il était triumvir et lui aussi était marié. Suétone écrit dans la vie des 12 Césars, Marc-Antoine, vous savez à quel point Marc-Antoine va se battre contre Octave, Marc-Antoine lui reproche, outre son brusque mariage avec Livie, d'avoir en présence de son mari emmené la femme d'un consulaire de la salle à manger dans son cabinet, d'où elle ne serait revenue à table que les oreilles rouges et les cheveux en désordre. Oui, oui, disons-le, Octave, qui va devenir Auguste, était un coureur de jupons. Alors, sa mort a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. On s'est beaucoup posé de questions. Il faut vous dire que, pas très longtemps avant de mourir, Auguste est allé rendre visite à Agrippa Postumus. Qui est-il, cet Agrippa Postumus? C'est le troisième fils d'une des filles d'Auguste. Donc, c'est son petit-fils. Hein, c'est le fils de Julia et d'Agrippa. Bon, c'est un drôle de personnage. On ne peut pas dire qu'Agrippa Postumus ait eu l'étoffe d'un empereur. On dit qu'il passait son temps à la pêche, qu'il était colérique, qu'il a même insulté sa grand-mère, si je puis dire, Livie. Bref, il ne s'entend pas avec Auguste. Il a été exclu de la famille impériale pour son mauvais caractère. On a même été jusqu'à confisquer ses biens et jusqu'à l'exiler, sur une île, à Planasie, près de l'île d'Elbe. Eh bien, c'est là-bas qu'Auguste, qui pourtant est un vieux monsieur, vous l'aurez compris, a fait l'effort d'aller lui rendre visite. Et ça s'est su, bien entendu. On l'a dit à Livie, qui déteste Agrippa Postumus, bien sûr, qui a peur surtout qu'il fasse de l'ombre à ses propres fils, à son cher Tibère. C'est Dion Cassius qui nous le dit. Auguste succomba à la maladie et Livie fut soupçonnée d'être l'auteur de sa mort, parce qu'il était allé en secret voir Agrippa dans son île et semblait tout disposé à une réconciliation. Craignant, dit-on, qu'Auguste ne rappelât Agrippa pour lui donner l'empire, elle empoisonna des figues encore pendantes à des arbres où Auguste avait l'habitude de les cueillir de sa propre main. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que du coup on n'a pas besoin de goûteur, puisqu'on cueille les fruits sur l'arbre, on ne peut pas penser qu'il puisse être empoisonné. Elle mangea les fruits sur lesquels il n'y avait pas de poison, ajoute Dion Cassius, et lui présenta ceux qui étaient empoisonnés. Le décès d'Auguste, disons-le, est d'autant plus troublant que dans les années qui ont précédé sa mort, l'entourage d'Auguste et celui de Livie ont été frappés par toute une série de morts suspectes. Pour vous dire que la fille d'Auguste, Julia, a eu trois maris, Marcellus, Agrippa et Tibère. Or, Marcellus, qui donc est gendre et neveu d'Auguste, est mort en 23 avant notre ère. L'empereur lui témoignait énormément d'affection, ça c'est toujours dangereux. En tout cas, il lui témoignait davantage d'affection qu'aux deux fils de Livie, à Tibère et à Drusus. Bref, Marcellus aurait pu devenir un concurrent pour les enfants, pour Tibère. Néanmoins, en 23 avant Jésus-Christ, une épidémie frappe Rome et Marcellus donc meurt. Est-ce que on l'a aidé à mourir? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Auguste avait d'ailleurs aussi été touché par cette épidémie. Plus suspects encore sont les décès brutaux de Caius et de Lucius, les fils de Julia et d'Agrippa, qui ont été adoptés par Auguste à la mort du second mari de Julia. Eux étaient encore enfants quand ils sont nommés princes de la jeunesse, consuls. Oh là 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 là, ils sont maintenant bien vus d'Auguste. Ça veut dire qu'il va leur arriver des histoires. Eh bien oui. Lucius s'éteint à 19 ans, il meurt à Marseille, de maladie, dit-on, alors qu'il se rendait en Espagne. Et puis quelques mois plus tard, Caius est blessé en Arménie, il meurt des suites de ses blessures. Et là, Tacite avance deux hypothèses, la mort naturelle après tout, pourquoi pas, ou bien un crime de la marâtre Livie.
Générique de la série Rome, puisqu'aujourd'hui nous sommes à Rome et Franck Ferrand, vous avez décidé de nous présenter la troisième épouse de l'empereur romain Auguste. Elle s'appelle Livie pour nous, Livia à Rome. Et il y a beaucoup de morts autour de cette femme, hein, on vient de le constater. Là.
Alors là, Auguste est mort, vous le comprenez. Et évidemment, comme il y a eu avant sa mort un certain nombre de décès bizarres dans son entourage, tout ça laisse le champ libre. Un véritable boulevard aux deux successeurs potentiels, Tibère et Drusus, qui ne sont autres, vous l'aurez compris, que les deux fils de Livie et de son premier mari. Auguste et Livie, je le rappelle, n'ont pas eu d'enfants. Alors Drusus va également mourir de maladie, selon Dion Cassius. Après la mort d'Auguste, le seul héritier reste Tibère, le premier fils de Livie, qui a 56 ans. C'est un tribun militaire. En tout cas, il l'a été quand il était jeune. Il est grand, il est robuste. On lui a donné par la suite toutes sortes de commandements importants. On l'avait vu, nous dit Tacite, dès sa première enfance, élevé dans une famille insatiable de domination. Jeune, on avait entassé sur sa tête les consulats et les triomphes. Tout le temps même de sa retraite à Rhodes, qui au fond n'était qu'un exil, il n'avait médité que vengeance, perfidie et débauche. On reconnaît bien le sens de la mesure de Tacite. Selon certains écrivains, Livie avertit Tibère. Elle lui demande de rentrer de la province d'Illyrie. Dion Cassius relate que la mort d'Auguste va être laissée. Vous savez, ça nous rappelle ce qui se passait dans certaines dictatures, notamment en Union soviétique. On cache la mort du puissant. En l'occurrence, Livie ne va pas annoncer, elle ne va pas divulguer la mort d'Auguste pour permettre à Tibère de rentrer à Rome et pour éviter tout soulèvement qui pourrait être incontrôlable. Certains, comme Velleius Paterculus, disent néanmoins que Tibère était présent auprès d'Auguste lorsqu'il a rendu son dernier souffle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est, ce Tibère, proclamé empereur au moment même où la ville et où l'empire apprennent la mort d'Auguste. Livie, à ce moment-là, a 72 ans, avec 4 ans et demi de moins que son mari. Elle n'a pas l'intention de se retirer pour autant, vous vous doutez bien. Déjà, il faut vous dire que du temps d'Auguste, elle était un appui politique important. Elle était la confidente de son mari. Elle avait toujours été consultée avant même que les conseillers ne se réunissent le plus souvent. On dit que Livie était même une sorte de complice pour son mari, qu'elle le pourvoyait en jeune femme. On verra ce qu'en pense Daniel Porte dans un instant. Des honneurs lui avaient été rendus. Elle bénéficiait d'un certain nombre de privilèges. L'inviolabilité de sa personne, la libération de la tutelle de son mari, ce qui est extraordinaire dans cette société romaine, et la possibilité d'être honorée par des statues érigées à son effigie un peu partout dans l'Empire. Livie, et d'ailleurs on en a de ces belles statues de Livie, il en reste beaucoup, Livie compte occuper une place encore plus importante maintenant que son époux est mort et que c'est son fils d'un premier lit, qui ceint la couronne impériale, les lauriers impériaux d'une certaine manière. Des honneurs vont lui être rendus de nouveau. Elle reçoit le titre d'Augusta. Elle reçoit un tiers de la fortune absolument gigantesque de son mari. Et désormais, on va l'appeler Iulia Augusta. Pour arriver à ses fins, Livie a bien l'intention de se débarrasser de tous les rivaux gênants. Et le plus dangereux, selon elle en tout cas, c'est le fameux Agrippa. Rappelez-vous, cet Agrippa Postumus qu'Auguste était allé voir sur son île. Une réconciliation était probable. Agrippa aurait pu rentrer à Rome, devenir empereur. Seulement, Auguste est mort avant. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir que lui-même y passe. De nouveau Tacite dans ses célèbres annales. Le premier acte du nouveau règne fut le meurtre de Postumus Agrippa, écrit-il. Quoique surpris, quoique sans armes et attaqué par un centurion déterminé, Postumus disputa longtemps sa vie. Tibère ne parla nullement de cette mort au Sénat. Il feignait des ordres de son père qui aurait enjoint au tribun préposé à la garde du jeune homme de lui donner la mort sans balancer, aussitôt que l'empereur aurait rendu son dernier soupir. Il est vrai qu'Auguste éclata souvent en reproches violents contre Postumus, dont même il fit confirmer l'exil par un senatus consulte. Mais ce prince respecta toujours le sang de ses proches et il n'est point à croire que pour la sûreté du fils de sa femme, il eût ordonné la mort de son propre petit-fils. Il est plus probable que Tibère et Livie, l'un par crainte, l'autre par haine de marâtre, précipitèrent la mort d'un rival odieux et suspect. Toujours est-il qu'Agrippa est mort, Tibère n'est pas encore rassuré pour autant parce qu'il lui reste un ennemi dont vous connaissez le nom. un coriace, celui-là, marié à Agrippine, la petite fille d'Auguste, et fils de Drusus, c'est Germanicus, c'est donc le neveu de Tibère, hein, puisque c'est le fils de son frère. Contrairement à Agrippa exilé sur une île, Germanicus est un soldat qui commande l'armée de Germanie. Ça va pas être facile. Il a à sa disposition des milliers d'hommes prêts à marcher sur Rome. Et puis lui est jeune, lui est beau, il est nettement plus populaire que Tibère. À la mort d'Auguste, les légions romaines, enfin certaines légions romaines, ont été jusqu'à proclamer Germanicus empereur. Il a refusé la charge, il a eu l'habileté de le faire, mais enfin néanmoins, Tibère le rappelle à Rome, le couvre d'honneur, et puis il l'envoie réprimer un certain nombre de soulèvements, de révoltes en Asie mineure. Seulement, alors qu'il arrive à Antioche, Germanicus tombe malade, et allez, et encore un, il va mourir, figurez-vous. Le responsable, selon son épouse Agrippine, c'est Pison, gouverneur de la Syrie, qui était jaloux de Germanicus et qui l'aurait empoisonné. Or, vous comprendrez peut-être un peu mieux ce qui se passe lorsque je vous aurai dit que Pison est un proche de Tibère. De nouveau Tacite, les nouveaux consuls, les sénateurs, une grande partie du peuple occupaient les chemins par troupes éparses et pleuraient chacun séparément, car l'adulation n'y avait nulle part. Tous étaient convaincus que Tibère dissimulait mal la joie que lui causait la mort de Germanicus. Tibère et Livie s'abstinrent de paraître en public, soit qu'ils crussent compromettre leur majesté en donnant leurs larmes en spectacle, soit qu'ils craignissent que tant de regards attachés sur leur visage n'en démêlassent la fausseté. On est presque chez Racine. Cette mort suspecte permet à Tibère et à sa mère, à Livie, d'être désormais sans aucun concurrent. Ils sont les maîtres absolus de l'Empire. Est-ce désormais la fin des complots ? Mais non, enfin, on s'ennuierait.
L'étonnant parcours de la troisième épouse de l'empereur romain Auguste, Livie. Si ce sujet vous passionne, vous aussi vous intéresse, vous pouvez poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook au cœur de l'histoire. Des complots, encore des complots, la suite c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes à Rome. Franck Ferrand, vous nous faites découvrir donc Livie, la troisième épouse de l'empereur romain Auguste. On l'a vu, beaucoup de morts suspectes autour d'elle pour en arriver à la tête du pouvoir aujourd'hui. Oui.
Alors,
son fils.
Maintenant, on peut dire qu'elle règne littéralement à travers son fils Tibère. Alors, que fait-elle ? D'abord, elle s'occupe de l'apothéose de son défunt mari, hein, Auguste, qui va être intégré parmi les dieux. C'est la première de ses décisions officielles. La chancellerie libelle les documents en portant le nom d'Augusta aux côtés de celui de Tibère. Vous voyez à quel point elle est devenue importante. Livie va aussi se mettre à recevoir officiellement des délégations du Sénat, du peuple, sans pour autant fréquenter le Sénat quand même. Elle n'est pas ni dans les camps militaires, ni dans les assemblées. En l'absence de Tibère, elle va même dédicacer une statue à Auguste et l'inscription présente le nom d'Augusta devant celui de l'empereur régnant. Vous voyez à quel point c'est quand même extraordinaire la présence, la place qu'a acquise cette femme dans l'Empire romain. Et une place tellement prééminente que, pour tout vous dire, le fiston commence à en avoir assez. Surtout que c'est un fiston d'un certain âge, vous l'aurez compris. Tibère se dit qu'elle est très très présente, cette mère. Vous voyez que la rupture est proche. Alors il va faire une chose d'abord. Les sénateurs avaient décidé d'accorder à Livie le titre de mère de la patrie. Eh bien Tibère dit non, c'est pas utile, n'allez pas aussi loin. L'empereur demande très vite à sa mère de s'occuper nettement moins des affaires importantes, car selon lui, elles conviennent mieux aux hommes. La tension croît entre l'empereur et sa mère. Ça se voit d'ailleurs, évidemment, et ça va donner à certains des idées. Ils se disent qu'on pourrait peut-être profiter de ces dissensions au sein même de la famille impériale pour songer à prendre le pouvoir. Quand je dis certains, c'est le cas notamment d'un certain Aelius Sejanus, qu'on appelle nous Sajan, Sejan, qui est le favori de Tibère et qui est le préfet du prétoire. Rien ne se faisait sans lui, nous dit Dion Cassius. En 23, Sejan va se débarrasser du fils de Tibère, Drusus. Il s'adresse pour cela à l'épouse de son ennemi, Livia, la fille de Germanicus. Il la séduit, elle succombe, ses gens lui mettent en tête l'espoir d'un mariage. Il faudrait pour ça qu'elle assassine son mari et comme ça on pourrait partager le trône, etc. Et Drusus va être empoisonné. Vous imaginez à quel point c'est étonnant. Ses gens va pousser par ailleurs. Alors est-ce que c'est lui qui le pousse? On ne peut pas en avoir la certitude, mais il est très possible qu'il ait convaincu Tibère peu à peu de s'éloigner de Rome, et ce qui lui permettrait de mettre un peu de distance entre sa mère Livie et lui. Et Tibère, vous le savez, va se retirer sur l'île de Capri. Pendant ce temps-là, ces gens sont seuls en place à Rome. Les sénateurs, toute la haute société romaine lui envoient députations, ambassades, etc. Son jour de naissance finira par être célébré comme fête nationale et bientôt, on ne prête plus attention qu'à ces gens qui est devenu l'homme fort. On oublie Tibère là-bas dans son île lointaine. Reste à éliminer quand même un certain nombre de prétendants au trône. Et allons-y, on recommence. Alors, il faut vous dire que Livie va bientôt tomber malade puisqu'elle meurt en 29, à l'âge de 86 ans. On se demande bien sûr si Tibère va rentrer pour ses funérailles, s'il va assister. Eh bien non, l'empereur n'assiste pas aux funérailles de sa mère et quand la cérémonie a lieu pour déposer le corps dans le mausolée d'Auguste, le cadavre est déjà en décomposition à force d'attendre. Caius, le futur Caligula à cette époque, n'a que 17 ans et bien c'est lui qui va lire l'éloge funèbre à la place de Tibère. Le joug de l'oppression s'appesantit alors de plus en plus, nous dit Tacite. Du vivant d'Augusta, on avait encore une ressource dans le respect invétéré d'un fils pour sa mère. Ces gens même n'osaient s'élever au-dessus de l'autorité de Livie. Ce frein ne les retenant plus, ils se déchaînèrent avec liberté. Ces gens va persuader Tibère que la veuve de Germanicus veut l'empoisonner, ce qui fait qu'Agrippine est exilée dans une île au sud de l'Italie. En l'an 31, donc moins de 2 ans après la mort d'Augusta, si je puis dire, de Livie, ces gens se fiancent avec la petite fille de Tibère, Julia. Il est introduit dans la famille impériale, il se sent déjà le maître de Rome, mais Tibère est toujours là. Ces gens va monter une conjuration avec des soldats, des sénateurs. Seulement, la belle-sœur de Tibère découvre le complot qui est dénoncé par un des conjurés. Et l'empereur Tibère va prendre les devants, décider d'annoncer que son successeur sera le futur Caligula. Donc, ces gens ne tentent rien. Tibère, à ce moment-là, décide de l'attaquer. Il a 2 corps militaires à sa disposition. Ça fait quand même une dizaine de milliers d'hommes en tout. Il destitue ces gens de sa charge. Et lorsque ces gens se rendent au Sénat, alors qu'ils ne se doutent de rien, Tibère est là, qu'il l'attend et qu'il lit une lettre très longue, accablante. Ces gens est violemment attaqué, ses partisans évidemment se font de moins en moins bruyants et puis on entend des cris, des injures contre lui. Vous savez, c'est cette vie politique romaine qui fait froid dans le dos. Ces gens va être arrêté, condamné à mort et il sera 3 jours plus tard précipité dans le Tibre. On peut dire à ce moment-là que commence la fin de ce règne de Tibère qui est une période plus ou moins de terreur. Et Livie dans tout ça, vous allez voir que vous pensez que j'ai fait le tour de tous ces méfaits, j'en ai laissé exprès, gentiment de côté pour la suite. Bonjour Daniel Porte, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons revenir sur un certain nombre des méfaits de cette Livie. Nous verrons aussi quand même que c'était une femme assez remarquable et qu'on lui doit, nous, ne serait-ce qu'en termes de tourisme, nous lui devons beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes à Rome avant notre ère puisque nous découvrons l'étonnant personnage qu'était la troisième femme d'Auguste, Livie, avec votre invité, Franck Ferrand, Daniel Porte, maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 à Sorbonne et puis qui vient de finir le dictionnaire d'Auguste qui paraîtra en début d'année prochaine.
Et oui, c'est une grande latiniste que nous recevons aujourd'hui qui a enseigné à l'Institut d'études latines. On peut dire évidemment que l'on est avant notre ère, comme vous le dites, évidemment Anissa, mais on est aussi un peu après notre ère hein, puisqu'elle meurt en 29 finalement Livie, vous voyez, donc elle est exactement à l'époque du Christ tout simplement. Alors on aurait pu appelé le récit que je viens de vous faire, Petit meurtre entre Romains, vous aurez remarqué, Daniel Porte, que j'en ai laissé de côté de ces meurtres. Moi, le grand cornélien, je n'ai même pas cité Cinna. Qu'est-ce qu'on peut dire de Cinna? Vous pouvez nous en dire un mot.
Cinna, c'est un personnage, à vrai dire, sans envergure particulière, non. Il a monté cette conjuration. Il a essayé.
Complot qu'on monte.
Complot,
contre lui.
Mais bien sûr, contre Auguste, évidemment. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier non plus. Il y a Ignatius Rufus, il y en a d'autres aussi. Mais lui est célèbre à cause de Sénèque, dans le De Clementia. Et c'est, disons, cet ouvrage que Corneille a probablement utilisé. Je dis probablement, je dis même sûrement.
Oui,
étant
oui.
donné qu'il y a
c'est
même. Prends
hein,
un siège Cinna,
voilà.
C'est déjà séché Sénèque.
Ouais.
Et Sénèque montre que. En fait, c'est Livy qui a conseillé Auguste. On sait qu'elle était sa conseillère habituelle. Auguste n'écrivait d'ailleurs jamais, enfin il écrivait tout ce qu'il allait dire avec Livy, même ses conversations particulières, parce qu'il se doutait qu'il en dirait ou trop ou pas assez. Et donc il était même, disons, consciencieux au point d'écrire ce qu'il pensait. Et Livy, évidemment, était elle sa conseillère, sa tutrice, sa maîtresse à penser, pas tout à fait, mais enfin tout juste. Dès qu'il y avait une question politique un peu ambiguë, Auguste se retournait vers Livy. Et c'est Livy qui lui a dit « Essaye la clémence, étant donné que les remèdes ordinaires n'ont pas réussi. Il y a eu la conjuration de Murena, la conjuration de Caepio, la conjuration d'Ignatius Rufus, justement. » Et chaque fois tu as sévi, mais ça n'a rien donné. Alors essaye la clémence. Et c'est là que Auguste va se borner, si l'on peut dire, à infliger à Cinna deux bonnes heures de réflexion assez amère. Mais ça a marché. Et Cinna ensuite sera son meilleur ami. Et oui, on ne dirait pas, mais enfin c'est comme cela. Et Auguste va lui donner des charges importantes.
À méditer par tous les,
oui.
gouvernants de la planète,
oui,
hein, cette
oui.
clémence d'Auguste qui par ailleurs fera d'autres belles œuvres. Alors, nous sommes à la fin du règne d'Auguste, ce sont les Claudiens, les Julio-Claudiens qui vont prendre le pouvoir à travers Tibère, donc le fils d'un premier mariage de Livy. J'ai présenté Livy comme une manipulatrice, comme une femme, j'allais dire, avec un énorme anachronisme machiavélique. Elle n'aurait pas reculé devant un certain nombre de suppressions physiques à chaque fois que quelqu'un venait se mettre entre le pouvoir et son fils Tibère. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand même, lorsqu'on lit, y compris les très mauvaises langues que peuvent être Tacite et accessoirement Suétone, on se rend compte qu'ils sont quand même prudents, ils ne l'accusent pas toujours ouvertement. Est-ce qu'elle a vraiment fait tuer Marcellus, par exemple, en 23?
Là aussi, c'est une conjonction de dates, étant donné que Auguste lui-même a subi une hépatite virale en 23. Marcellus
23
aussi.
Frère, hein, bien sûr.
Mais bien sûr, Marcellus aussi. Mais Auguste a été sauvé par son médecin, Antonius Musa, qui a eu l'idée géniale de lui faire prendre des bains glacés. Alors, je ne recommande pas cela à tous les patients qui souffrent d'hépatite virale, parce qu'aujourd'hui, ça ne réussirait peut-être pas. Mais enfin, avec Auguste, ça a réussi. L'ennui, c'est qu'avec Marcellus, ça n'a pas réussi. Or, en 23, Auguste est vraiment sur le point de mourir. Marcellus est son petit favori, il le fait grimper sur son char, il le met à sa droite dans les repas.
Ça commence à devenir dangereux,
justement, d'autant que Marcellus est le fils d'Octavie, bien entendu, et il y a aussi, il est le mari de Julie, donc il y a risque que ce soit les Juliens qui continuent. Et je vous rappelle que Livy, c'est une Claude, et que ses successeurs vont être des Claudes. Ce qui fait que...
On a l'impression qu'au sommet du pouvoir dans cet empire romain naissant, c'est une bataille de clans qui décide de la succession au trône. C'est assez étonnant.
C'est même certain. Et la preuve en est qu'Auguste va exiger dans son testament que Livy prenne le nom de Julia à Augusta et que Tibère aussi prenne le nom de Julius, alors que c'était un Claude, enfin Claudius si vous préférez. Tout cela parce qu'à Rome, il y avait la religion du nom et la magie du nom. C'est-à-dire qu'on disait « nomen numen », le nom donne la puissance et il était essentiel que le nom subsiste. C'est pour cela qu'on recourait à l'adoption. Quand on n'avait pas d'enfant, on adoptait le fils de quelqu'un d'autre, d'une grande famille si possible, même si le fils en question était d'âge adulte et même largement d'âge adulte. Mais il avait l'intérêt d'apporter son nom et de prendre le nom de celui qui l'adoptait. Autrement dit, ça donnait une sorte de couture, si vous voulez, par rapport à un nom qui était en perdition. Et il gardait son ancien nom sous la forme Annus, comme Scipion Émilien, si vous voulez, qui était un Cornelius, mais il était autrefois un Émile. Alors il s'appelle Émilien, mais il est devenu un Cornelius.
Alors, évidemment, nous n'avons pas pu évoquer tous les soubresauts d'un très long règne, parce qu'il ne faut pas oublier que ce règne d'Auguste est très long, que Livy est personnellement impliqué dans un certain nombre des grandes actions de ce règne. Vous disiez que parmi ceux... ensuite, on a vu qu'elle a liquidé Caius et Lucius, probablement. Hein, mais vous nous dites qu'il y en a probablement d'autres, et vous ajoutez au tableau de chasse de la dame, vous ajoutez Fabius Maximus. Expliquez-nous ça en deux mots.
Parce que c'est une longue histoire. Alors, Fabius Maximus, c'est le cousin et le confident d'Auguste, et c'est lui qu'Auguste emmène à l'île de Planasie
pour voir son fameux petit-fils,
Agrippa Postumus, voilà. Mais bien sûr. Et c'est gênant parce que Agrippa Postumus a été adopté par Auguste en même temps que Tibère, mais un petit peu avant, et donc sur l'ordre de succession, il arrive avant Tibère.
Et voilà. Encore un qui gêne.
Oh, oui, et qui gêne même beaucoup. D'autant que Auguste l'a rencontré à Planasie, que beaucoup de larmes ont coulé de part et d'autre, dit Suétone, et que Auguste a l'air de vouloir changer son testament. Alors, l'histoire veut que Fabius Maximus, hélas, en ait parlé à sa femme qui s'appelle Marcia. Marcia, c'est la confidente et la cousine de Livy. Autrement dit, Livy s'est aperçue que ça commençait à brûler et elle a fait disparaître Fabius Maximus, qui est mort la même année qu'Auguste. Et ce qui est quand même troublant, c'est que Marcia, aux funérailles de Fabius Maximus, s'accuse d'avoir causé sa mort.
Elle le dit, oui.
Mais bien sûr. Et Ovide, qui est exilé à ce moment-là, au fin fond
d'avoir
de la Roumanie...
D'avoir causé sa mort en parlant, d'une certaine manière.
Et il lui dit aussi, c'est moi qui ai été cause de ta mort.
C'est-à-dire, Ovide, le poète, lui, aurait parlé aussi par l'intermédiaire de sa femme.
Mais oui, sa femme est aussi la cousine de Marcia.
Bref, il y a autour de Livy un certain nombre d'agents de renseignement, si je puis dire.
Exactement.
Et le simple fait d'attirer l'attention de Livy sur un concurrent potentiel de son fils Tibère fait que le concurrent en question, généralement, finit par défuncter dans les temps qui suivent.
Exactement.
Alors, la question qu'on se pose, Daniel Porte, la vraie grande question, c'est est-ce que, oui ou non, Livy est pour quelque chose dans la mort de son propre mari, après plus d'un demi-siècle de mariage ?
Là, je dirais peut-être non. Je dirais non parce que Auguste lui-même a donc dit sur son lit de mort qu'elle se souvienne de leur amour, déjà. Ensuite, il était fou amoureux d'elle et il l'a donc enlevée à son premier mari. Elle était enceinte, on ne sait trop d'ailleurs si Drusus était le fils vraiment de Claudius Nero ou le fils peut-être d'Auguste, puisqu'il est
c'est-à-dire
né trois mois après.
Le deuxième des fils qu'avait eu Livy de son premier mariage était peut-être déjà un fils d'Octave,
Oui, puisqu'il est né trois mois après son arrivée dans la maison d'Auguste, enfin d'Octave à ce moment-là, et le peuple s'amusait en disant « Ah tiens, les Vénards ont la chance d'avoir des gosses en trois mois ». Donc, c'était déjà dire que peut-être bien qu'il s'était pris un peu à l'avance.
Oui. Alors, nous allons venir maintenant à un autre aspect de la personnalité, j'allais dire de l'œuvre de Livy. Nous allons parler de la matrone irréprochable, nous allons parler de la conseillère politique, nous allons parler de l'amoureuse des arts et des lettres. Finalement, on peut être un peu dangereux au sommet du pouvoir et être par ailleurs un bon gouvernant. Ça, c'est assez étonnant. Vous allez voir que Livy n'est pas seulement une femme sombre et noire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est une femme très importante de Rome que vous nous faites découvrir cet après-midi. Franck Ferrand, la troisième épouse d'Auguste, qui, on l'a vu, dirige et puis est une femme d'art aussi. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant avec votre invité Daniel Porte, maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne et auteur de Vercingétorix, celui qui fit trembler César aux éditions Ellipse.
Et je sais, Daniel Porte, que vous êtes en train de mettre la dernière main à votre dictionnaire d'Auguste qui devrait paraître assez vite là maintenant.
En principe, oui.
Oui. Vous avez consacré, j'imagine, dans ce dictionnaire à la lettre L, un chapitre
oui.
à Lévis.
Bien évidemment.
Personnage donc tout à fait étonnant. Alors, je le redis pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, il y a quand même chez les auteurs qui accusent Livy des pires crimes, il y a une part quand même de supputation, de conjecture, parce qu'on ne peut pas affirmer évidemment qu'elle a donné l'ordre de tous ces crimes. En revanche, ce qu'on peut affirmer, ça c'est incontestable, c'est qu'elle a été... On ne peut pas dire le contraire. Une grande dame, un de nos auditeurs nous demande si Livy dont nous parlons est bien la Livy du feuilleton hein, de Rome. Oui, incontestablement, c'est elle, évidemment, qui est présentée sous un jour assez ambivalent dans le feuilleton, on peut le dire. Là, il suffit d'aller à Rome, sur le Mont Palatin, et de visiter ce qu'on appelle la maison de Livy pour tomber sous le charme, en tout cas, de son art de vivre.
On peut aller aussi au musée des Thermes.
Oui.
Et c'est là qu'il y a les fameuses fresques de Prima Porta.
Mm-hmm.
Parce que
Livy, il y a deux maisons de Livy.
Voilà. Celle du Palatin, c'est une partie de la maison d'Auguste. Auguste avait voulu émigrer, si l'on peut dire, enfin monter sur le Palatin, parce que ça le rapprochait des origines de Rome. Il y a la cabane de Romulus, il y a les escaliers de Cacus, il y a le temple de Cybèle, bref, et le Lupercal qu'on vient de trouver d'ailleurs, au-dessous de la maison en question. Donc, comme lui voulait un retour pour sauver Rome, un retour à l'époque romuléenne, et il a réussi à, le temps de son règne à remonter Rome, si l'on peut dire. Et donc, il était monté sur le Palatin, il avait fait monter avec lui Vesta, qui est la grande déesse du foyer à Rome, il a fait monter Apollon, qui était son dieu personnel, et là, il y a effectivement une partie de la maison qu'il a consacrée à Livy. On le sait parce que c'est là qu'on a trouvé des tuyaux de bronze avec Livia Augusta, donc on l'appelle la maison de Livy. Et il y a des fresques du deuxième style, un peu plus sévères, on va dire, que celles
d'une
de la Prima
pureté,
Porta. Ah oui,
pureté.
Magnifique, magnifique de toute façon. C'est là qu'il y a les couronnes, les masques, les couronnes de feuillage, les festons, etc. C'est vraiment magnifique.
Donc si vous allez à Rome, je le dis pour ceux qui n'y passeraient que deux ou trois jours, s'il vous plaît, faites un détour par le Mont Palatin, ne serait-ce que pour la beauté du site, d'ailleurs, avec ses grands pins parasols, c'est sublime. Et puis vous visiterez cette maison dite de Livy, qui donc est une partie du palais d'Auguste.
Voilà. Bon.
Et puis il y a la maison de Prima Porta, enfin il y avait plus exactement, avec ses fabuleuses fresques.
Ça c'est absolument fabuleux. C'est là qu'on voit le goût de Livy, le goût fin d'une femme probablement. Parce que c'est une partie souterraine de la maison et il y a là des fresques qui évoquent à la fois, et là c'est peut-être le coup de patte d'Auguste, mais c'est peut-être aussi le goût de Livy elle-même, qui évoque l'âge d'or. Et Auguste voulait recommencer l'âge d'or. Alors il y a là toutes les espèces possibles, il doit y avoir, je crois, 29 et quelques poussières d'espèces d'arbres, et 69 ou quelques poussières aussi, espèces d'oiseaux. Donc il y a tout à la fois. Comme au premier temps du monde où il n'y avait pas de séparation entre les saisons. Donc on a des sapins qui sont magnifiques, on a des orangers, et puis surtout on a quelque chose qui est architecturalement parlant intéressant. Ce sont les croisillons en premier plan, des croisillons de bois magnifiquement exécutés et des plinthes. Et les plinthes, c'est assez drôle, sont une perspective, un essai de perspective inverse, exactement comme les icônes.
C'est étonnant.
Et oui, parce qu'ils avaient la perspective, mais pas dans le bon sens.
Ouais. Et on ne maîtrisait pas tout à fait ces lois-là. Il y a cette salle à manger aux oiseaux absolument inoubliable, qui est
une sorte
de paradis reconstitué. Et la grande fresque qui était présentée, je ne sais plus si c'est de la maison de Prima Porta, cette grande fresque noire qui se trouvait présentée à l'exposition du Quirinal, et où on voit, dans un premier temps, on a l'impression que les murs sont tout à fait noirs. Et puis lorsque le regard s'habitue et qu'on s'approche de la fresque, on se rend compte qu'en fait, tous les monuments de Rome sont représentés, mais sont représentés quasiment noir sur noir, comme si l'on était dans la nuit et que ne jaillissaient de l'obscurité et des ténèbres que quelques petits reflets de la lumière même d'où l'on observe. C'est tout à fait somptueux à voir. Alors, ça c'est pour l'art. ça n'est pas un art gratuit. Il n'y a pas seulement dans la somptuosité des décors qui entouraient au quotidien l'épouse de César Auguste, il n'y a pas seulement la volonté d'un hédonisme, il y a aussi sans doute une volonté politique. Il y a un programme politique artistique chez Livy. C'est elle qui commande aux artistes, c'est elle qui indique le sens dans lequel on doit aller.
Je pense. Il y a aussi un petit peu de mécène. Je crois que là, mécène n'est pas du tout étranger à cette optique-là.
Mécène le vrai, on parle du personnage.
Oui, bien sûr. Auguste ne pouvait... Il était balance. Il ne pouvait gouverner qu'appuyer sur quelqu'un. Et il avait d'un côté Agrippa, de l'autre côté mécène et à l'arrière-plan, Livy, justement. Et là, il se sentait bien. Donc, il avait recours à ses conseillers pour toutes les décisions qu'il prenait. Et pour l'architecture, justement, il y avait ce fameux programme de retour à l'âge d'or. Et de la lumière, vous avez très bien fait de parler de ces éclats de lumière, parce que ça se voit dans les jeux séculaires qu'il a commandés. Il y a cette optique d'un monde de ténèbres éclairé justement par Apollon. L'âge d'or, c'est l'or. L'or est conçu à ce moment-là comme un éclairage, mais bien sûr. Autrement dit, il y a les ténèbres et tout à coup, il y a des éclats de lumière et Apollon n'est pas pour rien le protecteur d'Auguste.
Est-ce que nous avons vu jusqu'à quelle influence s'est hissée cette Livy ? Elle a réussi à rendre Auguste clément. Est-ce qu'au-delà de cette clémence vis-à-vis de Cinna, par exemple, elle a été une conseillère politique avisée ? Est-ce qu'elle a été...
Oui, moi je crois. Elle a reçu les ambassadeurs.
Vous voyez qu'on va finir par lui tresser, nous, les lauriers que les historiens antiques lui ont refusés, finalement.
Oh, je veux bien. C'était d'ailleurs aussi une matrone irréprochable et elle a été un modèle. C'est en cela, certainement, qu'elle a servi le mieux les desseins d'Auguste. Parce que Auguste lui-même, comme on l'a dit, était un petit peu léger. Et on avait posé la question à Livy. Pourquoi et comment avez-vous subsisté aussi longtemps auprès d'Auguste ? Et elle avait répondu en étant irréprochable et surtout en faisant comme si je ne savais rien de ses badinages amoureux. Et c'est comme ça qu'elle avait réussi à rester, non pas dans l'ombre d'Auguste, puisqu'au contraire, il la mettait en valeur, mais à rester aux côtés d'Auguste en servant d'exemple. Et la valeur de l'exemple, la valeur de l'exemple, je vous ne la prendrai pas, c'est essentiel à Rome. Il faut toujours se référer à quelque chose qui se soit produit avant ou à quelqu'un qui ait vécu avant et qui serve d'exemple.
Alors, elle a été la conseillère et l'épouse très proche et très avisée d'Auguste, ce qui laisse effectivement de gros doutes sur la responsabilité qu'elle aurait pu endosser dans la mort du vieil Auguste, au demeurant à 76 ans, à l'époque. Mais elle a été aussi la conseillère non moins proche, mais un peu moins bien acceptée, de son propre fils à elle, de Tibère. Pourquoi Tibère avait-il tant de mal à supporter sa mère ?
À vrai dire, je ne peux pas pardonner Tibère, évidemment, mais on peut le comprendre. Parce qu'il a commencé sa vie sous de drôles d'auspices, justement parce que son père avait adopté le mauvais parti entre Antoine et Octave. Ce qui fait qu'il a failli être victime des proscriptions. Et il a dû passer de pays en pays aux côtés de Livy, justement, pour subsister. Ensuite, Octave à ce moment-là, est tombé amoureux de Livy. Il est entré dans la maison d'Auguste et malheureusement... Là, il a fallu, c'est une question, disons, inextricable, l'arbre généalogique des Julio-Claudiens, si vous voulez le voir, il est dément. Oui, parce qu'il a fallu qu'il divorçât...
Ça va être difficile à la radio de le montrer, oui.
Oui, de sa femme qui s'appelait la première Vipsania, qui était une des filles d'Agrippa. Il l'adorait et malheureusement, il a fallu qu'il divorce pour épouser Julie. Julie qui était à la fois une évaporée, qui était la veuve d'Agrippa, ce qui fait que Tibère a dû épouser quelqu'un qu'il n'aimait absolument pas. C'est pour cela qu'il est parti. Parce que les frasques de Julie, qui sont célèbres, ces réparties sont recueillies par Macrobe, et ça ferait une anthologie, de la vacherie, si j'ose dire, féminine. Parce qu'elles avaient la dent dure, autant Livy que Julie, l'une par rapport à l'autre. Et donc, elle a réussi à se faire valoir, si l'on peut dire. Mais Tibère, lui, il en avait un peu assez de passer pour le cocu génial de Rome. C'est une traduction, mais enfin, c'est exactement ce qu'on disait.
Mais l'expression n'est pas de vous, je précise.
Non. Donc, il est parti et il s'est exilé à Rhodes. Et puis, il est revenu tout de même quand il a fallu qu'il revînt. Mais à côté de cela, il a passé sa vie de déboire en déboire et finalement d'exil en exil. Et à la base, il y avait Auguste et Livy qui ne lui laissaient pas le choix. D'ailleurs, il ne voulait pas revenir, il a exigé de partir, il a fait pas, peut-être pas la grève de la faim, mais enfin, on n'en est pas loin. Et à ce moment-là, on peut penser qu'il en avait un peu assez de la famille des Juliens ou des Julii. Ce qui fait que après, on a eu la suite de la dynastie, si l'on peut dire, mais ce qui est assez drôle, c'est que Tibère il est mort sur son île, tranquille, tout seul, dans une vieillesse assez déliquescente.
Un peu sénile, oui, il faut le dire.
Mais à côté de cela, il y aurait la descendance de Livy et d'Auguste qui a été assurée, chose curieuse, par Marc-Antoine. Mmh. Antonia, qui a donné Germanicus, qui a donné les 9 enfants et les 9...
N'allons pas faire la généalogie des empereurs de Rome.
Oh non, que non. Les 9 enfants dans lesquels il y a eu Caligula et Agrippine.
Merci beaucoup, cher Daniel Porte. Puisque nous sommes juste à la veille des vacances d'été, je ne peux pas donner de meilleurs conseils à nos auditeurs que de se plonger dans votre ouvrage qui est tout simplement remarquable, qui s'appelle « Vercingétorix, celui qui fit trembler César » et qui est édité chez Ellipse.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui, Franck, une question de Benoît sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous dire pourquoi certaines mères portent des noms de couleurs, plus communément connues la mer noire ou la mer rouge encore ?
Alors, effectivement, on va commencer par la mer rouge, si vous voulez bien. Ça nous ramène, là encore, à l'histoire et aux historiens antiques, puisque c'est Quinte Curce, dans son histoire d'Alexandre le Grand, qui décrit le paysage qu'Alexandre de Macédoine visite lors de son voyage vers l'Inde, et il livre sa propre explication du nom de la mer Rouge. Son nom lui vient du roi Érythrus. C'est pourquoi les ignares croient que ses eaux sont rouges. En effet, Érythros, en grec, ça veut dire rouge, hein, justement, et donc Érythrus, pourpre. Donc Érythrus, ce serait l'origine du nom. Certains sont plus pragmatiques et disent tout simplement qu'il y a dans cette mer des algues au piment rouge. Cette algue s'appelle Yaphicoerythrine. Ça donnerait une couleur rougeâtre à l'eau. Il existe une explication plus probable. Le rouge kizil symbolise le point cardinal de l'ouest dans les codes géochromatiques des anciens Turcs de l'Empire ottoman, vous savez. Et donc, on aurait nommé cette mer, du nom de son point cardinal, tout simplement. Alors la mer Noire, quant à elle, elle se situe, elle, entre l'Europe, le Caucase et l'Anatolie. Il existe pas mal d'explications. Une des raisons, c'est la même chose que pour la mer Rouge, il s'agirait du fameux code géochromatique. Donc comme le noir désigne le nord et que par rapport au monde dont on parle, la mer est au nord, ça aurait été la mer Noire. Certains disent que cette mer méritait en iranien l'adjectif Aksaïna, qui désignait un indigo sombre, donc d'où la noirceur. Et puis là encore, les plus pragmatiques diront que dans les eaux très sombres de la mer Noire, plus exactement que dans les profondeurs de la mer Noire, l'eau finit par être sombre. Oui, il fallait bien que j'amuse Marion pour cette fin de saison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?